Chapitre 17 Le duel. Au son de ma voix, Cordelia tressaillit et leva vers moi une face étrangement pâle. « Patrick est ici !» m'écriai-je comme une brute, « et tu le sais bien. Pourquoi ne m'en as-tu rien dit ?» Elle considéra ma fureur d'abord avec un étonnement indicible et puis avec effroi. Elle semblait ne plus me reconnaître. Je n'étais plus son Hector, elle ne me répondit pas, et elle fit bien. Que répondre à un lion déchaîné, et qui n'entend rien, qui ne comprend rien? Alors, je continuai comme un fou. Vous ne vous refusez rien, promenade en gondole. Vous êtes allés ensemble visiter les musées, les églises, Notre-Dame de la Salute. À ces derniers mots, elle soupira. « Oh, mon Dieu, c'était donc vrai. J'avais cru que ce n'était qu'un rêve. » Ce qu'elle disait là aurait dû m'éclairer, me montrer ce qu'elle était restée, l'éternelle victime des machinations de l'autre. Mais j'étais parti pour nous faire souffrir, et je ne m'arrêtais point en si beau chemin. « Vous avez des rendez-vous tous les jours, entre 5 et 7 ?» « Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ?» Et Cordelia se soulevait, ouvrait des yeux immenses, comme si elle découvrait tout à coup, à l'état de veille et au son de ma voix, des choses qui avaient été déposées dans son polygone à l'état de sommeil. « Je dis que tu abuses de ma bonne foi, pendant que je te crois ici, en train de te reposer. » Tu cours goûter avec Patrick dans son appartement du Grand Canal. » Elle poussa un cri et se cacha la figure dans les mains. « Oh, ne me dis pas le contraire, je vous ai vu, je vous ai entendu. »« Mais qu'est-ce que tu as entendu ?» gémit-elle. « Lui ai-je dit que je l'aimais ?» Ah, avec quelle voix d'angoisse elle me demandait cela. « Non, je n'ai point entendu cela. » Fis-je surpris du ton dont elle m'avait posé cette question. « Mais tu sais bien que je ne puis entendre la voix de silence. Mais si je n'ai point dit cela, je n'ai rien dit, » déclara-t-elle, en me regardant avec ses yeux immenses. « Le reste est en dehors de moi. » Là-dessus, la voilà qui s'affale sur la chaise longue et son corps est tout secoué de sanglots. Je tombai à genoux. Toute l'horreur de ma conduite m'apparaissait en même temps que l'innocence de Cordelia. Chère, chère, chère Cordelia. Je me maudissais. J'essayais de calmer ses pleurs. Je lui pris la main. À ce moment, je m'aperçus que le linge qui enveloppait son doigt était tout rouge. « Tu saignes, Cordelia? Tu t'es donc blessée ?»« Oh, sans doute, » répondit-elle entre deux larmes, « je me serais heurté à quelques meubles en rêvant. »« Cordelia, Cordelia, tu n'as pas rêvé, » déclarai-je en lui démaillotant le doigt, avec une émotion où passait tout ce que le docteur Turel m'avait dit de l'extériorisation de la sensibilité. « Non, Cordelia, tu n'as pas rêvé, hélas, et en voici la triste preuve. Pendant que tu étais réellement en esprit dans l'appartement du Grand Canal, j'y fis irruption avec une violence si grande que je basculai tout devant moi. Un couteau qui se trouvait sur le guéridon tomba, et Patrick s'écria « Elle est blessée !» Cette fois, Cordelia s'était levée, si blanche, qu'on eût dit son propre fantôme. « Mais comment peux-tu croire que je ne t'aime pas ? » exprima-t-elle dans un souffle. « C'est le sang de mon cœur qui coule par cette blessure que tu m'as faite là-bas, dans la chambre de Patrick. Le comprends-tu ? Le comprends-tu ? » Note trouvée dans le manuscrit d'Hector, souffrance et blessure à distance, phénomène du verre d'eau de M. Rochas, voir aussi les faits rapportés par le docteur Chazalin dans son livre des matérialisations. Très souvent, les médiums ont reçu en pleine lumière de violents soufflets, à la suite desquels on voyait la marque des doigts, une égratignure, un bleu sur le visage. J'étais resté à ses genoux en entendant ces paroles sublimes. Je serrais ses nobles jambes entre mes bras tremblants et la suppliais de me pardonner. Mais une autre idée la possédait déjà, et je compris que c'était cette idée-là qui la faisait si terriblement pâle. « Que vous êtes-vous dit en mon absence ?» demanda-t-elle. J'étais pris de court et ne sus d'abord que balbutier un mensonge. « Oh, jure-moi, fit-elle, que vous n'allez pas vous battre !» Je fus bien obligé de lui jurer cela, mais encore elle me dit « Tu fais un faux serment, c'est mal. N'importe, je ne veux pas que vous vous battiez. » J'eusse préféré qu'elle dit « Je ne veux pas que tu te battes. » Ou « Vous ne vous battrez pas. Je t'accompagnerai partout. » Elle fit si bien qu'il me fut impossible de sortir de l'hôtel, et comme je tenais absolument à nous débarrasser à jamais de l'anglais, je fus obligé de lui envoyer en secret Surdon pour le mettre au courant de ce qui se passait et de le prier de se charger de tout, des armes, des témoins, etc. Je demandai à ce que le duel eût lieu à la première heure, car je comptais m'échapper pendant le sommeil du matin de Cordélia, qui ne manquerait point d'être accablant après toutes ces émotions. Surdon revint en me disant que je n'avais à me préoccuper de rien que de me présenter à la pointe du jour à l'hôtel du comte de C, qui se trouve à l'extrémité de ce que l'on appelle les jardins de Venise. Cordélia était redevenue plus calme. Nous fûmes nous promener sur la piazzetta et nous parvînmes même jusqu'au café de Florian où nous prîmes un porto au son des guitares. Tout était gai autour de nous. Je m'efforçais d'être gai moi aussi, mais Cordélia restait tristement pensive. En rentrant chez nous, elle déclara qu'elle ne se coucherait pas. « Je ne te crois plus. Tu m'as menti. Si je prenais quelque repos, tu en profiterais pour aller te battre. Je ne veux pas que vous vous battiez. » Je haussais les épaules pour exprimer mon indifférence, mais j'étais horriblement ennuyé. J'avais une occasion merveilleuse et légitime de supprimer la cause de tous mes malheurs. On se battait au pistolet et j'étais sûr de tuer Patrick. Et voilà que l'entêtement de Cornelia allait tout gâter. Heureusement, je pus renvoyer Surdon vers l'anglais pour l'instruire encore de ce qui se passait et pour lui dire que je ne voyais aucune issue à cette situation s'il ne consentait point à endormir Cordélia pour que je puisse aller me battre avec lui. Si jamais on m'avait dit que j'adresserais un jour une pareille prière à cet homme dont la puissance psychique avait fait toute ma misère. Mais passons. Tout ceci prouve une fois de plus que, quelle que soit notre façon de concevoir le monde et les rapports de l'âme et de la matière, nous ne sommes qu'un peu de poussière dansante dans un bref rayon de soleil. Surdon revint en me disant que l'anglais lui avait déclaré qu'il tenait à se battre au moins autant que moi et qu'il serait fait comme je le désirais. Nuit douloureuse, nuit qui me parut d'une longueur infinie. Ah, malheureux! Si j'avais su, comme j'en eusse compté toutes les minutes avec la terreur de les voir s'enfuir trop vite. Cordelia avait tenu sa parole. Elle ne s'était point couchée, quoique j'eusse pu lui dire. Allongée sur le canapé, elle lisait ou faisait semblant de lire. Et moi, je la regardais. J'attendais maintenant avec impatience ce que l'autre avait promis. La chose arriva un peu après 5 heures du matin. Ses paupières se fermèrent, son livre tomba de ses mains et son corps prit cette rigidité que je connais trop bien. Je fermai la porte de sa chambre à clé et mis cette clé dans ma poche, puis j'appelai Surdon. À 6 heures du matin, nous frappions à la porte de l'hôtel du comte de C. Patrick n'était pas encore arrivé, mais le médecin et les témoins s'y trouvaient déjà. Il y en avait deux pour moi, avec qui je fis connaissance et dont je n'eus qu'à me louer. Le comte de C, qui appartient à la plus vieille noblesse vénitienne, était absent, mais c'est un homme qui, paraît-il, aime les arts et les artistes et qui avait mis son hôtel à l'entière disposition de Patrick. On sait ce que sont les jardins de Venise. C'est l'un des rares îlots de l'antique cité qui ne soit pas entièrement envahi par la construction. Cependant, l'hôtel du comte y trouve sa place et a une entrée particulière sur ses jardins publics, comme chez nous, les hôtels du parc Monceau. C'est le seul qui ait ce privilège, de telle sorte qu'à cette heure, où les jardins étaient fermés, nous nous trouvions comme si nous continuions d'être dans sa propriété privée du comte. Sur ces entrefaites, Patrick arriva, les mains vides, je l'affirme ici comme je l'ai juré à la cour d'assises. Les armes étaient dans des boîtes, que les témoins avaient apporté avec eux et qu'ils avaient prises la veille chez l'armurier. Patrick ne connaissait pas ses armes, du moins il l'affirma et je le crois. Elles furent du reste tirées au sort. Ce sont les pistolets apportés par ces témoins qui nous servirent. Nous étions maintenant dans la grande allée centrale des jardins. On dit qu'au printemps, cet endroit est une merveille, un enchantement, quelque chose comme le miracle des roses. En cette saison d'automne, je vis, sous les premiers reflets d'un jour blême, un lieu assez lugubre et bien propre à encadrer l'effroyable drame. Du reste, tout se passa avec une rapidité terrible. On compta les pas, 25 nous séparaient l'un de l'autre. Nous devions échanger 4 balles. Mais je suis d'une telle force au pistolet que j'étais sûr de tuer mon homme au premier coup. J'y étais bien résolu et je n'en concevais aucun remords. Je savais qu'aucun bonheur avec Cordelia ne me serait possible sur cette terre tant que Patrick vivrait et qu'il alla au diable. J'avais tout mon sang-froid quand retentit le commandement de « Feu !»« 1, 2, 3 !» Patrick et moi tirâmes presque en même temps que le directeur du combat comptait 2. Seulement Patrick tira en l'air en poussant un cri désespéré. Moi, j'avais déjà lâché mon cou à hauteur du cœur, et cependant je répète ici que je n'eus point la sensation que Patrick avait jeté ce cri parce qu'il venait d'être touché par ma balle. Au surplus, il ne l'était pas. À ce cri, répondit un autre cri d'une angoisse indicible. Il sortait de ma gorge et de mon cœur, et cependant, moi non plus, je n'avais pas été frappé. La seule personne dont on n'entendait point le cri de douleur fut la seule qui fut atteinte, et je jure ici devant Dieu et devant les hommes que mon cri m'a été arraché par la vision certaine de l'image de Cordelia qui s'était soudain dressée entre nous à la seconde où nous appuyions sur la détente de nos pistolets. Seulement, Patrick avait eu le temps de lever son arme, mais moi, mon coup était parti. L'image s'était évanouie aussi vite qu'elle m'était apparue. Je jure que le corps astral de Cordelia, qui jusqu'alors était resté invisible à mes yeux de chair, si ce n'est dans le miroir de l'eau, et encore faut-il se demander si ce n'était point là un jeu de l'eau et de mon imagination, m'est apparu à cette seconde avec netteté. Ce phénomène, du reste, venait si bien corroborer d'autres phénomènes illustres de l'âme, apparaissant subitement à des personnes aimées dans le moment même qu'elle dépouille pour toujours son enveloppe terrestre, que je compris le cri d'épouvante de Patrick, qui lui aussi avait vu. « Malheureux ! S'écria-t-il, malheureux ! Qu'avez-vous fait ?» Mes cheveux durent se dresser d'horreur sur ma tête, et nous ne connûmes plus tous deux que notre infernale angoisse. Sans nous préoccuper des témoins et sans aucune explication, nous laissâmes là tout l'appareil du duel et nous courûmes nous jeter dans une gondole. Pas un mot durant le trajet. Du reste, je me sentais devenir fou. En arrivant à l'hôtel, nous nous ruâmes vers la chambre de Cordelia. Tout était tranquille. Les choses étaient telles que je les avais laissées. Un immense espoir commença de monter en moi. Cependant, ma main tremblait tellement que je ne parvenais pas à mettre la clé dans la serrure. Ce fut Patrick qui ouvrit la porte. Nous nous précipitâmes. Cordelia était toujours sur la chaise longue, mais elle avait déjà une figure d'outre-tombe et un peu de sang tachait son peignoir à la hauteur de la gorge. Cordelia était morte d'une balle qui lui avait traversé le cœur. Chapitre 18 Et maintenant, n'est-ce pas, ô mon Dieu, qu'on ne me la volera plus ? Je ne sens plus le voleur autour de moi. Tout de même, malgré ma belle assurance de tranquillité, j'ai fait mettre un verrou de plus à la porte de la cellule où je me suis retiré des vivants. Dans cette retraite, j'ai voulu accomplir mon premier devoir envers moi-même et envers les autres. J'ai consigné ici tous les événements qui ont précédé, à ma connaissance, préparé et accompagné l'affreux drame. J'ai raconté simplement comment les choses sont arrivées, même quand ces choses étaient fort extraordinaires. Si l'on me suit pas à pas et si l'on me croit, on comprendra. À la cour d'assises, c'est parce que l'on ne m'a pas cru que l'on ne m'a pas compris. Et cependant, je ne me ménageais pas. Je prenais toute l'horreur pour moi. Pourquoi ne m'a-t-on pas poursuivi? Je vous dis que c'est moi qui l'ai tué. Ô misère du monde! Je puis me réjouir aujourd'hui de ce qu'on ne me volera plus que le cœur de Cordelia parce qu'il est mort. Et c'est moi qui l'ai tué. Je vous le crie, je vous le répète, n'en doutez plus, puisque je n'en doute plus moi-même. L'enquête fut longue et retardée par le mal qui s'empara de moi à la suite de cette tragédie. Quand je fus en mesure de parler, je trouvai les affaires de la justice engagées dans les voies les plus fausses, comme il fallait s'y attendre. N'avait-on pas un instant arrêté Surdon, sous prétexte qu'il possédait un revolver chargé dont une cartouche avait été brûlée? On supposait qu'il s'était introduit dans la chambre de sa maîtresse pour voler quelques bijoux pendant son sommeil. Des niaiseries, des stupidités. Et comment en eût-il été autrement? Les magistrats se trouvaient en face du corps d'une femme tuée d'une balle en plein cœur, et cela dans une chambre close de toutes parts, aux fenêtres fermées intérieurement et à la porte fermée à clé. Le plus extraordinaire était bien que l'on eût cherché la balle, partout sans la trouver. Elle avait traversé le corps de part en part, et on ne la découvrit ni dans la chaise longue, ni sur les murs. Je savais bien, moi, où elle était, la balle. Elle était quelque part, dans les jardins de Venise. On avait dû relâcher sur Don, mais on avait arrêté ensuite Patrick, et ils le gardèrent, celui-ci, jusqu'à la cour d'assises. On avait fait l'autopsie du cœur, et il résultait de l'expertise de la blessure qu'elle avait été produite non par une balle de revolver, mais par une balle de pistolet du calibre de ce que Patrick s'était procuré pour le duel. Comme l'enquête avait démontré que Patrick, le matin avant le duel et dans la nuit qui avait précédé le duel, avait rôdé autour de l'hôtel d'Agnelli, il n'en avait pas fallu davantage pour que la justice accusât l'Anglais d'avoir pénétré dans l'hôtel et dans la chambre de Cordelia à l'aide de quelques passe-partout ou d'une clé qu'il pouvait tenir précédemment, de la complaisance d'un domestique payé pour aider Patrick dans ses coupables entreprises. Il avait tué Cordelia par jalousie pour qu'elle n'appartînt plus à personne. S'il mourait, c'était simple, comme c'était simple. Lamentable humanité. Le malheur était qu'un coup de pistolet fait du bruit et que personne ne l'avait entendu dans l'hôtel. Patrick s'était en vain défendu en racontant des histoires de suggestion et de communion d'âme qui avaient fait sourire ces messieurs. S'il était venu autour de l'hôtel d'Agnelli cette nuit-là, c'était que je l'avais prié d'endormir Cordelia au fin qu'elle ne nous gênât point pour nous tuer, et que Cordelia, c'était suggestionnable qu'à certaines distances. Quand je vins, moi, renforcer ses dires et affirmer à mon tour que Cordelia avait été tuée dans l'hôtel d'Agnelli par la balle que j'avais tirée dans les jardins de Venise, les magistrats cessèrent de sourire et témoignèrent d'une grande colère. Je fus considéré comme un fou par les uns, comme un imbécile par les autres, et ils m'en voulurent beaucoup de ce que je ne me joignisse pas à eux pour accabler Patrick. Le père de Cordelia ne me pardonna point et se sépara de moi avec mépris. Les agents sont rapportés en quelques lignes ce qu'il advint de Patrick. Il y avait trop peu de preuves matérielles pour le condamner. Le jury l'acquitta en dépit de tous les efforts du ministère public. En d'autres temps, moins troublé par la politique européenne, s'il n'avait pas eu lieu à l'étranger, le procès n'eût point manqué d'avoir un retentissement immense, et il le méritait, car il mettait aux prises devant des juges le plus grand drame du monde, celui qui se passe entre le visible et l'invisible. Ces ânes battés n'y comprirent rien. Je vois encore leur ahurissement lorsque le docteur Turel, cité par la défense, vint leur expliquer qu'il n'y avait point d'impossibilité scientifique absolue à ce que Cordelia fût morte de la balle qui avait frappé son prolongement psychique dans les jardins de Venise. C'est ce que le docteur Turel appelle la mort par traumatisme astral. Il y a même une phrase latine pour exprimer cela, une phrase qui date du Moyen-Âge, mais je ne me la rappelle plus. Chapitre 19. La dernière visite. Oh, Cordelia, tu es morte de ma main. Si je vis encore, sois assurée que c'est pour mon expiation. Que de fois ai-je évoqué ton image devant la dépouille de ton cœur. Que de fois t'ai-je appelé, mais tu n'es jamais revenu. Il y avait des jours et des jours que je n'avais ajouté une ligne à ces lignes, et je restais comme anéanti en face du grand mystère de la vie et de la mort, quand la porte de ma cellule s'ouvrit et qu'un homme entra. C'était Patrick. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Je m'étais jeté devant l'urne qui contient le cœur de ma bien-aimée, Il me comprit et eut un sourire amer. « Oh, ne craignez rien, me dit-il, je vous le laisse. Que me fait à moi son cœur de la terre? J'ai son cœur céleste. » Je me levai en trébuchant comme un homme ivre, tant ce qu'il venait de prononcer me remplissait de douleur et de jalousie. « Mais que voulez-vous dire ? » râlai-je. « Vous voyez toujours Cornélia ?» Il secoua la tête. « Calmez-vous, fit-il. Non, je ne la vois pas. Elle est trop loin de nous, et je n'ai jamais cru au retour ici-bas du fantôme des morts. Quand je dis que j'ai son cœur céleste, je veux dire que je l'ai eu. La mort me l'a enlevé, mais la mort me le rendra, » ajouta-t-il d'un air sombre et inspiré. Eh, fis-je, taisez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, bien, bien, du moment que vous le prenez ainsi, je ne vois pas ce que je suis venu faire ici, ni moi. Monsieur, fit-il sur un ton d'une noblesse admirable, j'étais venu vous demander si vous n'aviez pas quelque commission pour elle, car elle vous aimait bien, vous aussi. Elle n'aimait que moi, affirmai-je, étrangement troublé cependant par l'air et les paroles de Patrick. L'autre soupira et secoua encore la tête. Vous avez cru cela, mais ce n'était pas possible, fit-il avec une grande douceur. Sans quoi, elle serait encore de ce monde. C'est donc vous, au vrai, alors qu'il avait tué, m'écriai-je. Du moins, qui êtes responsable de sa mort. Cela a toujours été mon avis. C'est vous et c'est moi. C'est nous deux, confirma Patrick avec un grand accablement. Oui, j'ai été bien coupable de mon côté. J'ai trop détaché son esprit de son corps dans mon délire, dans la soif que j'avais de son âme, dans l'amour dont je brûlais pour son pur esprit. Mais vous avez trop détaché son corps de son esprit. Nous marchions à une catastrophe inévitable. Ces paroles me frappèrent comme un glaive, et je n'interrompis plus le visiteur. « Ceci prouve, ajouta-t-il en prenant le chemin de la porte, qu'on ne peut vraiment donner le bonheur à une créature terrestre qu'en lui apportant un équilibre dont nous étions incapables. Si Cordelia avait rencontré dans un seul homme un peu de vous et un peu de moi, elle eût pu être heureuse. Du moins, je me plais à le croire. Maintenant, là où elle est, son âme n'a plus besoin que de l'esprit. J'y vais. Adieu, monsieur. » Les journaux m'ont apporté ce matin la nouvelle de la mort de Patrick. Il ne sera pas dit que je le laisserai poursuivre Cordélia à son aise. J'entends qu'elle m'appelle. J'ai sa voix dans mon oreille. « Au secours, Hector, au secours! Moi aussi, je veux devenir un pur esprit, et pour être plus fort arrivé, je vais faire le même voyage qu'elle, par le même chemin. Bien que parti avant moi, Patrick arrivera trop tard, il sera bien attrapé. Le cœur de Cordélia m'indique la route qu'il faut prendre. » La balle frappera mon cœur exactement au même endroit qu'elle a trouvé le sien. J'aurai le même soupir qui me mènera au même point de l'espace où elle m'attend. J'en suis sûr. Cher, cher, cher Cordélia. Deauville, septembre 1919.